Bonjour et bienvenue sur Six and Daz. Alors Six and Daz, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission musicale, la première émission musicale de qualité. Je sais ce que les gens pensent. Mais oui, c'est vraiment la première émission musicale de qualité. Et donc le concept, c'est d'accueillir autour du micro Six, mon partenaire.
Hey.
Voilà, de Crime, qui va se présenter après bien sûr. Hein. Et donc moi-même Daz, pour discuter en fait... en conversation à bâton rompu, en podcast.
Exactement.
En fait,
hein, exactement.
D'un artiste
d'une époque qui nous a beaucoup marqué.
Qui te tient à cœur,
si. Ah ouais, bah c'est fin 90, début 2000.
C'est, voilà,
c'est... ce que moi je considère, comme je disais, l'âge d'or.
C'est la Golden Era.
C'est l'ère où Eminem, 50 Cent, T.I.
Et là, tu vois, on précise qu'on parle de hip-hop.
On parle de hip-hop, exactement.
Bien sûr. Là où les gens n'étaient pas au courant.
Bien sûr, mais il y a eu Avril Lavigne, il y a eu...
No Doubt, bien sûr.
Ouais, voilà.
Alors, donc le concept, c'est une émission qui va être centrée sur un artiste. Et on passe en revue un petit peu la carrière, les morceaux à entendre, à connaître, et éventuellement... la transition de cet artiste-là, est-ce qu'il a réussi finalement à transformer l'essai et à devenir autonome, ou au contraire, est-ce qu'il s'est craché en flamme et a été oublié par l'histoire. Et donc évidemment, pour présenter cette émission, moi vous me connaissez tous parce que je suis chez Qualité depuis 3000 ans, mais toi Six, dis-nous, quel est ton parcours ?
Et moi je suis Six de Get Large, je l'appelle Get Large, donc... c'est si vous êtes ancien et que vous vous intéressez aux l'époque.
Ah là là.
C'est, voilà, dans les années 2000, on était qualifiés de les jeunes français à conquête de l'Ouest, tu sais.
Je me rappelle.
Qui partaient, tu sais, avec le baluchon à New York. Donc on a un label et une boîte de prod et on a fait pas mal de compos, on a travaillé avec pas mal d'artistes.
Dis les noms des artistes qu'on comprenne bien que c'est sérieux.
Okay. Ben, on a eu la chance de travailler avec le Deep Set. Joel Santana, Ghostface Killa, ensuite Dubou. On a travaillé avec Mastaes, on a travaillé avec...
Mob Deep aussi, je crois.
Mob Deep, oui. On a fait deux tracks avec Avok de Mob Deep. On n'a pas eu la chance de travailler avec Prodigy, malheureusement. On a travaillé avec Avok.
Qu'il reste en paix.
Oui, exactement. Après, on a travaillé avec... que je te dise pas.
Alors il prend son album.
Ah oui, bah parce que tu vois, c'est, ah oui, parce qu'après c'est bon, ça reste beaucoup plus underground. Après c'est Ali Vegas, mais il y avait comme le Style Speed de D-Block. Donc on a fait pas mal de sons, on s'est retrouvé sur pas mal d'albums et on a sorti 3 mixtapes, on a sorti pas mal de vinyles et un album, l'album qui est sorti en 2005-2006. Et puis après chacun voguait à ses occupations différentes. On était trois dans le label.
Voilà.
Donc mes collègues Sla et Dams, que je salue d'ailleurs, doivent écouter. Et puis voilà, après moi de mon côté, je suis parti sur une version française.
je vois les disques, c'est quoi, c'est des disques d'or, de platine.
Après moi j'ai travaillé avec tout le rap français quasiment, Booba, enfin moi. Voilà.
Là les gens voient pas, mais en fait, à côté de nous, il y a deux disques de
platine.
C'est ça que
j'aime bien, oui.
Et le premier, c'est celui de Booba pour l'album Lunatique. Et le second, c'est celui de Rof.
Exactement, qui sont sortis de la même année. Voilà, donc, c'est pour ça que j'aime bien les mettre là, à côté de
Voilà, les gens s'entendent pas. Les mecs s'entendent pas entre eux. Mais ici, chez toi, les deux disques d'or sont côte à côte.
Parce que c'était improbable. C'est la plus belle performance que je considère qu'on ait faite. C'est de travailler avec les deux la même année et de sortir. Parce que si les deux avaient su lors de l'enregistrement, ça ne serait jamais passé.
Donc, est-ce qu'on peut dire que tu as un petit peu zoulouté
un petit peu, mais Booba? Bien sûr.
Mais en toute amitié, bien entendu.
En toute amitié, parce qu'ils sont contents de leur son, c'est sorti en single, il y a eu Ma Couleur d'un côté et puis Ma Rap Game de l'autre, tout le monde était content, il n'y a pas de... Et puis la SACEM et tout, c'était grand, tout le monde était content.
Tout le monde était content, la SACEM, ok. Donc pour ce premier numéro, enfin c'est même pas un premier numéro, c'est le pilote de l'émission, qu'on se laisse la possibilité de diffuser, bien entendu. On va parler d'un artiste qui tenait à cœur.
Oui, un artiste qui me tenait à cœur car il représente bien ce son. C'est Memphis Bleek. Et alors on aurait pu commencer par 50 ou Jay-Z même. On aurait pu commencer.
Ouais, mais nous on n'est pas comme ça.
Et on n'est pas comme ça. Nous
on veut. On aime bien les seconds couteaux. Voilà.
Voilà, exactement. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il va vraiment représenter cette période, c'est-à-dire de 95 à 2005. C'est quand même une carrière de 10 ans.
Ouais.
Avec ses hauts et ses bas, et ça, il va représenter voilà le. Ce qui représente pour moi le son Rocafella. Et le son Rocafella, c'est quelque chose d'important.
Donc Rocafella, le label monté par Jay-Z. Alors attention, je précise, hein, parce que même si on s'adresse peut-être à des mecs comme nous qui sont dans le game,
bien sûr,
il va y avoir énormément de graphistes freelance qui vont écouter cette émission. Il faut les assister, il faut les aider, il faut les faire rentrer.
Bien sûr.
Donc c'est le son Rocafella, le label monté par Jay-Z et Dame Dash.
Et Biggs.
En
95, 96. Hein. Après Reasonable Doubt,
donc
le premier album de Jay-Z.
De Jay-Z, ouais.
Ils vont monter le label. Et Memphis Bleek sera la première signature du label.
D'accord.
Et après, il y a tous les enchaînements qui vont s'en suivre avec les Benny Siegel, les State Property, les Cameron,
Les rangs jazz, tous ces mecs que plus personne ne connaît de nos jours, mais c'est cool. C'est cool
qui ressortent grâce à YouTube.
En plus, ouais, YouTube, première base de musique.
Avec complètement.
Première base de données musicales au monde, évidemment.
Complètement.
Alors, pourquoi Memphis Bleek, toi, parce qu'il représente le son.
Voilà, exactement. Et puis...
Non, vas-y.
Et puis c'est un éternel second couteau. J'aime bien son histoire. C'est du, c'est voilà, j'ai un attachement et j'ai une sensibilité. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours eu, hein, tu vois.
Ouais.
C'est bon. En étant à New York, je suis resté 5 ans à New York, donc j'ai vraiment vécu ça de près là-bas. Et c'était quelqu'un qu'on entendait tout le temps.
Ouais.
Je veux dire, on savait que c'était pas la superstar, mais il tournait dans toutes les radios. Hot 97, Power
106,
voilà. C'était vraiment, il tournait dans toutes les radios, dans les clubs, quand on sortait, c'était une chanson sur trois, c'était Memphis Bleek. Il avait vraiment des gros bangers. Donc, c'est vraiment, voilà, j'ai été vraiment baigné avec son, tu vois.
On parlait de bangers à l'époque, ouais.
Oui, je pense, ouais. Bangers, ouais.
Ok.
Ouais, je pense.
Parce que maintenant, c'est un son, c'est un terme que tout le monde utilise aujourd'hui.
Oui, on disait bangers, oui, le hit bangers, tu vois. Club bangers, ouais, c'était pour le.
Non, moi je sais pas, moi j'étais complètement de l'autre côté des États-Unis, donc nous on fonctionnait pas pareil en Californie, c'est pour ça. Alors, Memphis Bleek, un petit point sur qui il est, d'où il vient.
Alors Bleek, bah, il est du même quartier, donc Marcy Project, à Brooklyn, et il est même du même building que Jay-Z.
Ah.
Donc c'est carrément l'affiliation.
C'est son voisin.
Voilà, c'était, tu vois, c'est le building, c'est le 534 à Marcy Projects, qui donnera plus tard, on verra le nom d'un
album. Ouais.
Voilà. Et alors Memphis Bleek, on peut expliquer que c'est Memphis Bleek. Pourquoi Memphis Bleek? Alors rien à voir avec la ville.
Memphis. Oui, parce que Memphis, alors que le mec est New-Yorkais.
Voilà, rien à voir. Okay. Memphis Bleek, c'est pour Making Easy Money, Pimping Hosing Style.
Donc, on va le traduire en français, faire de l'argent facile en macrotant les putes avec style.
Ouais, mais avec style, voilà, c'est ça qui est. Ça, c'est
mais avec style. Avec classe, tu vois.
Exactement.
Donc ça, déjà, c'est quand même un acronyme qui, en 2019, ça passerait moyen.
Ouais, ça passerait moyen.
Donc ça, c'est pour le Memphis et le Bleek.
C'est ça, un diminutif. En fait, c'est sa petite sœur, il explique que c'est sa petite sœur qu'il appelait Bleek pour Malik.
Donc voilà. Donc Malik, c'est son prénom. Et
exactement.
Voilà. Okay.
Il est né en 78, une petite année sympathique.
Une année plutôt bien, je pense, en termes de naissance.
C'était bon, il est né sous Giscard, mais lui, je pense qu'il le sait pas.
Ouais, moi, je le savais pas non plus.
Donc, c'est intéressant, c'est qu'il est né sous Carter, le président Carter.
Mm-hmm.
Et après, Jay-Z, toujours Carter, tu vois.
Sean Carter. Ah ouais, oh là là. Oh, les étoiles étaient alignées.
Voilà, okay. Exactement. Tu vois. Et donc, au début, il rappe dans son quartier. Et ce qui est intéressant, c'est surtout toi, pour le journal du Hardware, tu vas pouvoir me dire si c'est de qualité ou pas. C'est qu'il rappait dans son headphones. Tu vois, il prenait donc. Il était chez lui.
Il rappait dans le casque.
Il rappait dans le casque, tu vois. Donc, j'imagine
c'est. Alors, ça, on l'a tous un peu fait. Quand tu fais de la musique à un moment donné et que t'as pas de micro, mais que tu te rends compte qu'en fait, en gueulant dans l'oreillette, le son pisse et passe en enregistrement, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. C'était pourri, mais je l'ai fait.
Voilà.
Donc, je comprends tout à fait le mec qui rappe dans son headphones, qui s'enregistre dans sa salle de bain. Pour moi, c'est complètement normal, en fait.
Ça, c'est un petit tip, c'est astuce à ceux qui nous écoutent.
Bah oui, si vous avez pas de micro pour faire des podcasts, n'hésitez pas à parler dans votre casque filaire, par contre. Ça marche pas en Bluetooth.
Et donc voilà, il commence à rapper. Puis Jay-Z fait souvent des allers-retours dans son quartier pour voir sa famille, ses amis.
Pour continuer à dealer.
Pour pimping style. Et puis il rencontre ce petit Bleek et il est intéressé par l'artiste. Et puis il lui dit, tiens, viens rapper sur mon premier album. L'album Reasonable Doubt.
Qui est
considéré comme un classique de Jay-Z. C'est vraiment l'album préféré.
Comme un classique du hip-hop aussi.
Exactement. Mais il est fondateur.
Ouais.
Il pose vraiment avec Illmatic de Nas, c'est vraiment deux albums qui vont poser vraiment les fondations du renouveau du hip-hop new-yorkais.
Voilà. Après le Wu-Tang aussi.
Exactement.
I'm out here slinging, bringing the drama, trying to come up in the game and add a couple of dollar signs to my name. I'm out here serving, disturbing the peace. Life could be better like my man reclined in plush leather seats and selling weight. I'm selling 8 bull 16, trying to graduate the pushing quarters, y'all. I ain't gonna sweat them, I'ma let them come to me. Alors, on l'a pas précisé, mais c'est Sam qui est à la console et qui balance les sons.
Selecta.
Sam, elle est dans tous les podcasts de qualité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce premier morceau? Moi, franchement, je le kiffe.
Ouais, très très bon morceau, très très bon
je
morceau.
Même, au niveau du
flow. Il a 15 ans à l'époque, hein. Il est.
Bah non, il est 78. C'est 95. Il a 17 ans. Bon, il a 16 ans et demi.
Ouais, voilà. Oui, voilà. Même quand c'est enregistré,
oui.
Il explique lui, qu'il a 15-16 ans. Voilà. Donc il enregistre ça. C'est vraiment une belle perf. Hein. Il va être vraiment remarqué. C'est un album d'ailleurs. C'est pas le premier album en café là, de Jay-Z, parce que ouais, c'est un album noter, oui. Ouais, qui est signé chez Priority Records.
Priority Records, qui est un label qui est majoritairement connu pour avoir produit Ice Cube, entre autres, et puis tous les mecs avec Ice Cube, donc les KD et les Dallin Shum, etc. Donc c'est plutôt un label californien.
Exactement, ce qui est intéressant, c'est de se dire que Jay-Z, son premier album, a été signé à LA et pas à New York. Tu vois. C'est quand même...
Il n'y avait pas la guerre encore. Ça arrivait après. Mais en tout cas, ouais, j'aime bien le flow qu'il a, la gnaque, mais c'est peut-être lié à la jeunesse. Parce qu'en plus,
certainement.
À cette époque-là, tu avais aussi les petits de Illegal, tu avais Da Youngstas, tu avais toute cette clique de rappeurs juvéniles, tu avais Shy Aim aussi. Et je trouve d'ailleurs qu'ils ont un peu tous le même flow.
Bah, non, mais bien sûr, ils sont élevés au même vibrant. C'est la même chose qui sort. C'est le rap du quartier, c'est le rap du freestyle, c'est le rap en bas du bloc, tu vois, que tu débites. Donc pour eux, il y a pas de différence entre débiter le rap en bas avec les potes que d'être en studio, tu sais, se retrouver
devant une console à 150 000 balles.
Exactement, c'est vraiment la même chose, c'est pour ça qu'on retrouve une uniformité et un vrai son new-yorkais. Et donc à partir de là, ça va devenir la première signature du label Rockefeller, qui sera monté donc.
Qui sera monté juste après.
Exactement.
D'accord.
Et donc
c'est quand même un signe de confiance qui est... Le mec, il est même pas majeur, là. Et on lui dit, t'es la première signature du label. Exactement. De Jay-Z.
Ah oui, bien sûr. Jay-Z, de toute façon, a toujours cru en lui. Il a toujours dit, mon successeur, c'est Memphis Bleek. C'est mon gars. Il l'a toujours pris avec lui. Il a toujours dit... voilà.
C'est-à-dire que Jay-Z a dit ça de Bleek, alors qu'il ne l'a jamais dit à Kanye, par exemple.
Non, mais Kanye, il voulait même pas le citer. C'est à l'époque...
Oui, en plus. Ouais, oh là là.
C'est toute une histoire qu'on aura l'occasion d'ailleurs de raconter un de ces quatre. Et donc, il sort son premier album en 99 qui s'appelle Coming of Age, le même nom
que le morceau.
Que le morceau.
Histoire de dire quand même,
marketing.
Gars, voilà, je viens pas de nulle part, voilà. Vous m'avez sûrement vu dans. Ah là 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 là, c'est exactement tout ce que je n'aime pas dans le hip-hop de cette époque-là. L'instru est un peu putassière.
Swiss Beats.
Ouais. Donc c'est Swiss. Alors Swiss Beats, donc Rough Riders. Moi, c'était vraiment pas ma cam.
Disons qu'il avait 3 caisses et qu'il a fait 10 sons avec les mêmes caisses et que
ça finit tout pareil. Ouais, voilà. Mais voilà, le truc un peu vraiment, pour le coup, c'est un son vraiment pompier, tu vois.
Ouais, c'est ça. C'était très fanfare à l'époque. Bah,
ouais.
De toute façon, tu prends l'album Rough Riders, DMX.
Oui, bah,
c'est toujours le même son. Donc, il a pris un son du moment, en fait.
Ouais.
En gros. Je sais même pas comment la rencontre s'est passée. Swiss Beats, je crois qu'il était du Bronx et lui de Brooklyn. Ça a dû se faire en maison de disque. Il a posé sur le son parce que c'était le Swiss Beats, le son du moment.
Ouais,
il y avait un Rider Anthem qui tournait, donc il fallait
dire qu'on bosse aussi avec eux.
Exactement, parce que sur l'album, donc l'album qui est très bon, il y a des productions Buck Wild, il y a des productions Jeroma, puis dessus t'as Daron Jazz, t'as Norega.
Ah, Daron Jazz, mes préférés, ils sont morts dans le film, mais je les aimais bien.
Ouais, c'était très bon. Première apparition de Benny Siegel aussi, sur l'album, tu vois. Et puis, intéressant, Jay-Z, qui est toujours là, qui est le back, qui est toujours.
Ouais, c'est vraiment, il y a un vrai. Il y a un vrai lien, quoi.
Ah, ouais, mais vraiment, ce sera. C'est même rare dans le rap que 30 ans de musique business, à un moment ou à un autre, n'auront pas les liens, quoi.
Ouais.
Avec tout l'argent qui coule, tout, tu vois, ils sont restés ensemble tout le temps, pendant 30 piges, c'est quand même assez remarquable.
30 piges,
De 95 à 2.
Non, pas 30. Ça fait beaucoup, là.
Ça fait beaucoup. Ça fait 30 ans, ça fait un peu.
Ouais, plutôt, là, on est à 25. On va arriver à 25, là, parce que 30 ans, vraiment, j'ai l'impression d'être un. Mais non, ok.
Non.
25, ça va, tu vois. Ok, 25 ans. D'accord, donc ça, c'était sur son premier album en 99.
Qui fera une belle perf, d'ailleurs. Il fera Gold, il fera 500 000. Ce qui, pour un album, parce que c'est un album de rap quartier, hein. On est dans l'époque pré-Rocafella, pré-Just Blaze, pré-Kanye West. C'est encore du son de New York. C'est un album comme vous avez. Comment on appelle ça, du rap de quartier. C'est une mixtape améliorée, quoi, en gros.
Ouais.
Tu vois, avec du mixage.
Un bon mixage, quand même, parce que.
Ouais, bon mixage, ouais. C'est toujours Young Guru, je pense, qui était derrière.
Ouais, toujours là.
Ouais, toujours là.
Avec Jay-Z, tout le temps.
Et donc, à partir de là, va arriver 2000, et là, c'est sa grosse année. Là, c'est l'année Bleek. Là, c'est. Pour l'année 2000, on lui fait plein de cadeaux. Alors, déjà, il part en tournée.
Ouais.
La grosse tournée backstage de Jay-Z.
Alors pour toi, c'est une tournée qui est emblématique, alors que pour moi, j'étais plutôt sur le Pin Smoke Tour.
Ah oui, bien sûr, qui reste emblématique. C'était vraiment, je pense que dans toutes les tournées qui resteront en hip-hop de ces années-là, c'est les deux grosses tournées qui restent emblématiques. C'est la première fois que deux gros labels partent comme ça avec les avec une quinzaine de tourbus, tu sais, qui tournent partout.
Ah ouais, non, c'est des stades remplis.
C'est voilà, si on se remet dans l'époque, si on peut suivre ça sur maintenant sur YouTube ou regarder les DVD, c'est quand même ouf. Tu vois, c'est le public qui est complètement hystérique. C'était vraiment les pop stars, c'était les Rolling Stones
de l'époque. Ouais, c'est ça. C'est l'impression que le casting sur scène, c'était costaud quand même.
Ah, c'était super costaud. Tu vois, et là, à chaque fois, il y a toujours Memphis Bleek qui est là, qui est toujours derrière Jay-Z. Donc les gens, ils se disent, Memphis Bleek, le nom tourne de plus en plus. Tu vois. Ouais. Et surtout, qu'au même moment, sort un gros morceau qui est le tube de l'été 2000. C'est Hey Papi.
Hey Papi, repris sur à peu près toutes les mixtapes de DJ Goldfinger à DJ Cutty B, à DJ qui tu veux.
Ouais, c'est vrai.
Alors c'est toujours la même formule, hein, c'est des gros gimmicks au niveau de l'instru. Bon moi, encore une fois, ça existe, ok. Ouais.
Mais gros tube, c'est vraiment, je pense que ça pas passé. Même Skyrock, on l'avait bazardé à l'époque, je me rappelle, c'était vraiment... Écouter Memphis Bleek sur Skyrock, c'est, tu vois, c'était nouveau, quoi. Et donc, et en plus, au même moment, il y a l'album de Jay-Z, de Dynasty, qui va sortir.
Donc ça, le Hey Papi, là, c'était la BO de la famille Folding.
La Folding, ouais, c'est ça, Naughty Professor. Le 2, je pense, en plus. Hein.
Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Donc la même année, l'album Dynasty.
La Dynasty qui devait à la base être un album rock-café-là, mais le Def Jam a dit non, si on veut vendre des albums, il faut que ce soit un album Jay-Z. Donc l'album rock-café-là est devenu un album Jay-Z.
Ouais, parce que le titre complet, c'est quoi? C'est The Dynasty, il est où celui-là?
Rock La Familia.
Rock La Familia. Ouais.
Ah. Un peu d'espagnol.
Aïe.
Un peu d'espagnol en LV1, tu sais.
Ouais, bah vraiment, non, mais c'était la période où les mecs parlaient tous italien ou espagnol, c'était insupportable, mais ok.
Et donc, avec encore une fois un gros titre qui tournera pas mal, qui s'appelle Change the Game. Change the game for these hoes. I wear more bling than the swords and soul trains. More chains than rings. Niggas won't do a thing. I bangs the 4-4 and plain daylight. Alors, les claps, la ligne de basse.
Moi, je suis désolé, mais ce truc-là, il y a Jay-Z dessus, mais c'est un beat West Coast.
Ah, mais c'est un beat West Coast, c'est Rick Rock à la prod.
Ah, 3000 degrés. Ah, oui,
c'est un gros beat West Coast, c'est Rick Rock à la prod. D'ailleurs, un gros mix avec le Doc Pound.
Donc là, le Change the Game, c'est sur Rock...
Rock La Familia, The Dynasty.
C'est l'album de Jay-Z. Donc cet album-là, lui, il a surperformé.
Il a surperformé, parce que c'est que c'est 10 titres, 10 singles. C'est vraiment... voilà. Et c'est chaque titre est sorti, c'est un album de Jay-Z. Tout, il avait toujours fait numéro 1, Jay-Z, sur tous ses albums.
Ouais.
Et ça va faire, je sais pas, 2 millions, 2 millions, 3 millions d'albums, rien qu'aux États-Unis. Donc ça va encore mettre le nom...
Rien qu'aux États-Unis.
Oui, bien sûr, ouais. On est sur des chiffres américains. Donc tout ça, c'est encore 2000. Et en 2000, à la fin, il a le temps de sortir son album, qui s'appelle The Understanding. Et dont le premier single qui va lui aussi surperformer vers l'automne décembre de cette même année, c'est le fameux Is That Your Chick de Timbaland avec Missy Elliott. Okay, what's up? Shut up, close the door. Act like you've been in the drop top on an open road before. Ouais, la fameuse punchline, celle-ci, elle a été reprise dans toutes les mixtapes aussi.
Il ira bien, il ira bien. Donc, en plus, ce morceau-là, hein, on a dit en featuring avec, donc, évidemment, Jay-Z, parce qu'il est jamais loin.
Et putain, voilà.
Missy Elliott, Twista.
Tista, ouais, Tista.
Et le tout produit par Timbaland, mais bon, si c'était pas flagrant, là, franchement, ce genre de son, c'est du Timbaland à 4000%.
Ouais. Très, très gros titre, hein. ça a tourné vraiment, mais.
Ouais, en club et tout, là, c'était.
Là, c'était le raz-de-marée. C'était vraiment 2000, c'était vraiment le raz-de-marée.
Ouais.
Si tu prends tout ça, tu te demandes en une année comment ils ont pu sortir tout ça, quoi.
C'était, mais alors, la question que je pose, c'est est-ce que, parce que ça, c'est le single qui a surcartonné, mais l'album.
Et ben voilà, c'est ça le problème.
Ah.
Et on en arrive au problème. C'est qu'ils vendent pas d'album. Cet album-là,
ils vendent pas d'album, toute proportion gardée. Mais voilà.
Disons que au prix, comme tu l'as dit, au prix de la prod.
Oui, oui.
Je pense que le prod de Timbaland, par exemple, ça va être, je sais pas, 100 000 $.
Ah
facilement,
ouais.
Ah oui, facilement. Alors peut-être que Jay-Z a un rabais avec une carte spéciale, tu sais.
Une prod
de Timbaland, à l'époque, c'était 100 000 balles, mais easy, facile.
Ah
facile.
Ouais, d'accord.
Donc c'est des gros budgets, c'est des albums qui, c'est énorme. Donc on calcule sur 1 ou 2 millions d'albums vendus
pour revenir dans les frais.
Voilà, dans les frais. Et il va fail, là. Il va faire 500 000.
500 000, hein, je rappelle que 500 000 CD vendus en France aujourd'hui,
diamant, je crois,
hein. Tes disques de diamant platinés et dorés au saumon quand même.
Hein, voilà.
Mais là, donc, le mec fait disque d'or, c'est un peu...
C'est considéré comme un échec. C'est considéré comme un échec, sachant que c'est sa plus belle année, il vend pas, il va rester, il va prendre un gros coup, sa maison de disques va mettre un petit frein sur les sorties. Lui, il va prendre, il va s'arrêter pendant 3 ans de rapper. On ne l'entendra quasiment plus. Lui explique son grand frère a eu un accident de moto. Il a été paralysé, il s'est occupé de lui.
Oh le bouc émissaire.
In style.
Ouais, in style. Hein, le mec, ok, je suis éloigné du micro pour m'occuper de ma famille. Voilà. Alors qu'en fait, bon, on lui a peut-être dit, écoute. Mmh. T'étais sous les spotlights tous les ans et finalement t'as pas vendu tant que ça. Donc,
Et ce sera l'époque en plus où ils vont plus tôt sortir tout ce qui est State Property, Benny Siegel, Freeway et tout ça. Ça va correspondre.
Donc c'est vraiment Rockefeller qui continue à sortir ses artistes. Mmh. Mais du coup là, il step back un petit peu,
Mais exactement. Public. Exactement. Donc pendant 3 ans. Après il va revenir en 2003. Alors ce qui est intéressant sur l'album de 2003.
Qui s'appelle
Made.
Alors attention, encore une fois, Memphis c'était déjà un acronyme, là c'était trop simple, il aurait pas pu dire made, donc le made veut dire quelque chose et ça veut dire
le money, attitude, direction, education.
Voilà.
Alors, il y a tout mis, on a l'impression que...
Money, attitude, des mots, direction, éducation, génial, c'est la COGIP.
Voilà, exactement. Alors, c'est vrai qu'avec un nom comme ça, déjà tu pars pas...
Ouais.
Tu pars pas gagnant. Alors il y aura un gros single, hein, le Round Here, avec T.I.
Alors, Roundy avec T.I., donc là, ça veut dire qu'on part down south direct.
Directement. Bah, parce que c'est la période
de
T.I.
C'est la période de T.I.
C'est la période de T.I.
La trappe, les débuts de la trappe, etc.
Exactement. Et on balance ça.
Franchement, alors les charlets, voilà,
de l'époque, hein, de
la signature, mais c'est Just Blaze.
Ouais, c'est Just Blaze à la prod, c'est étonnant.
C'est Just Blaze à la prod. Moi, franchement, j'aime bien voir des New Yorkais posés sur des beats du sud des États-Unis, tout simplement parce que les mecs du sud rappent comme des merdes. Du coup, ça fait du bien d'avoir des bons MC. Sur leurs instruments un peu putassières également, mais il fait le taf.
Non, il fait le taf.
Franchement, leur dire, il fait le taf.
Et en plus, le clip est marrant parce que t'as Jay-Z qui arrive dans sa grosse fantôme, tu sais, avec ses lunettes. C'est une chauffeuse qui conduit, tu sais, donc ça fait déjà un peu ping-ping, tu vois.
Ouais.
Il baisse la fenêtre, il y a Bli qui l'attend, puis il parle, il fait bon, c'est bon. Genre en parrain, je te donne les clés du label, vas-y rap maintenant.
Ah, je te donne les clés du label.
Genre, en gros, voilà, tiens.
Vas-y.
Et donc voilà, donc.
Que de symboles.
Voilà, exactement. Donc il est toujours là, tu vois, on a toujours la même recette. C'est-à-dire Jay-Z croit en Bleak, il le pousse, tu vois, il est là, il est toujours avec lui. Et alors l'album va faire bafloper.
Donc là, par contre, on parle d'un pur flop, d'un moyen flop.
Ce 35e au Billboard, pour un album Rockefeller, c'est un vrai flop. Parce que t'as un des pires flops, peut-être à 1000 à l'époque.
Attends, tu vas me dire que Freeway il a fait mieux que 35.
Oui, certainement. Je pense. Oh, il a fait Gold, donc le Freeway.
Ah ouais, d'accord.
Ouais.
Okay.
Donc celui-ci c'est vraiment l'album qui a flopé. Et d'ailleurs ça va lui faire vraiment 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 énormément.
Ouais, faut dire que le mec, donc on rappelle, il a fait un hiatus de 3 ans pour s'occuper de son frère.
Exactement.
Skin, normal.
Ouais.
Le mec revient, il se dit. l'attente, elle a build up un petit peu pendant que j'étais pas là.
Un bon single qui tourne en
plus. Il dégaine un single avec TI et tout machin, donc tu te dis bon voilà. Et finalement, 35e au Billboard, donc la douche froide.
Bah, en plus, t'en seras pas un peu de l'album. Dessus, il y a Just Blaze à la prod, Scott Storch, Kanye West.
Tu vois, oui, donc déjà,
il
y
a tout le rock café là, il y a Donald Jones, Nate Dogg.
Il y avait Donald Jones
sur l'album. Il y a Nate Dogg, il y a M.O.P.
Ah, Nate Dogg, Rest in Peace.
Et il y a un petit artiste qui va signer qui s'appelle Jay Dakay. Et ça, c'est intéressant pour notre histoire, nous, Get Large. J'ai décrit parce qu'à l'époque, nous, on travaillait beaucoup, on avait la chance d'être accueillis à Rocafella par Lenny S. Santiago, qui était le directeur artistique, aussi le DJ de temps en temps pour Jay-Z. Et il nous a fait rencontrer Memphis Bleek, c'était à cette époque-là. Donc nous, ce qui est bien, c'est qu'on savait qu'il n'était pas trop en forme au niveau... non, on pouvait le toucher plus facilement, tu vois.
Ah, il va prendre nos prods, il est pas sûr.
Voilà, exactement. Okay. Et puis il nous présente, il vient avec son jeune artiste, Jay Dakay. Il nous fait, voilà, moi, c'est lui, le rap, je vais faire une petite pause. Tu vois, je dois avoir un deuxième frère.
Tu vois. C'est-à-dire que donc, Memphis Bleek, qui est le petit de Jay-Z, il vous a présenté son petit à lui, qui était Jay Dakay.
Jay Dakay, exactement. C'est le même Marcy Project, c'est pareil, un petit Durag, pareil. Tu vois, même
Durag, casquette.
Voilà, même moule. C'est très bon rappeur, hein. Jay Dakay, vraiment très très bon rappeur, incisif, quoi. Ouais. Et il nous le présente, on fait 4-5 morceaux sur des mixtapes avec lui. Et il est d'ailleurs sur notre album. Il a un morceau, c'est le morceau numéro 4, qui s'appelle Common Comol, qui est un très bon morceau. Et on est vraiment fiers de ce morceau. C'est quelque chose qui...
Donc là, le seul problème finalement, c'est que Jay Dakay...
si Ben Facebook ne marche pas...
Il est mort ou en prison, parce que du coup, moi, j'en ai jamais entendu parler.
Oui, bien sûr. Et il y a deux fois sur l'album Made. Ouais. Tant pis pour lui, hein.
C'est pas le meilleur album, mais du coup, il a quand même deux titres.
Il a quand même deux titres, avec Nate Dogg. Parce que sur l'album, il y a quand même Nate Dogg, Young Chris, Freeway, M.O.P. Tu vois, c'est quand même c'est un album où ils ont vraiment mis, je pense, qui a dû coûter une fortune.
Mais en fait, il y a un feat par titre, quasiment.
Ah ouais, quasiment. Je pense, ils ont tout mis. Ils ont vraiment tout mis.
M.O.P., Lil Seas, Benny Seagull. Benny Seagull, c'est normal, c'est le label, hein, mais donc, Young Chris aussi. Ah oui, d'accord. Ah là là. Ouais, donc là, en fait, concrètement, il y a 17 morceaux, il y a 16 featuring.
Voilà, exactement. Avec que de la grosse prod. Que du Kanye.
Est-ce que c'est pas contre-productif, justement?
À l'époque, ça se fait beaucoup.
Que des feats? C'est-à-dire, ton album, c'est une mixtape, en fait?
C'est quasiment. Alors, c'est contre-productif, forcément, puisque l'artiste, il n'est pas mis en valeur. Il y a juste un couplet.
Oui, bah oui,
sur son propre album, il a un couplet.
T'as un couplet par morceau, et en plus, tu peux te faire one shot par le mec que t'as invité, parce qu'il est meilleur que toi.
Ouais, exactement. Ouais. C'est ce qui peut arriver, ça. On dit pas ce qui est arrivé, mais c'est ce qui peut arriver.
Ça peut arriver. Voilà. Ça peut arriver.
Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est sorti, il comptait certainement sur sortir 3-4 singles. Ouais. Et puis bénéficier d'à chaque fois des ventes sur le single. Malheureusement, il n'y aura qu'un single.
Un seul single.
Un seul single, ils vont passer à autre chose.
Ah ouais.
Tu vois. Alors après, il faut aussi mettre dans le contexte, Jay-Z se sépare de Damon Dash.
Ouais.
À l'époque.
Donc Damon Dash qui était le cofondateur de Rockefeller.
Exactement. Il devient président de Def Jam.
Oui. Jay-Z. Ok.
Et
donc il change de.
Il change de statut, tu vois. Ouais. Il avait pris une petite retraite, je sais pas si tu te souviens.
Oui, oui, oui. Après, il est revenu avec le Black Album.
Ouais, tu vois. Ouais. Donc il prend sa retraite, il revient président et il prend Memphis Bleek et c'est la première sortie du nouveau Rocafella chez Def Jam. Donc il croit encore en son gars, tu vois.
Après tous ces échecs, franchement, c'est bon. Tu vois, moi, sincèrement, Jay-Z, il a quand même une image de businessman qui mélange pas trop les sentiments et le biz. Et t'aurais plutôt tendance à penser que le mec. Bon, écoute, là, on en est à ton troisième album, t'en as flopé deux. On va arrêter. Et là, non.
Non, pas du tout.
C'est-à-dire que le mec reboot Rocafella chez Def Jam et il signe Bleek en premier.
Exactement. Première sortie. Bah d'ailleurs.
Putain, la pression.
Oui. Bah d'ailleurs, la pression, elle est ouf sur les épaules de Bleek. Parce que Jay-Z dira en plus sur le remix de Diamond from Sierra Leone de Kanye West. Ouais. As long as I'm alive, he's a millionaire. Et ça, c'est une phase qui va sortir.
En parlant de Memphis Bleek, il lui dit tant que je suis vivant, toi t'es millionnaire.
Exactement. Dans un morceau qui tourne. Exactement. Donc ça va lui mettre la pression. En fait, ça lui met un plafond, tu vois. Ça veut dire Bleek, il va rester comme le second de Jay-Z.
Un peu comme Caris et Booba à l'époque.
Alors nous, on serait contents s'il nous disait ça, Jay-Z, tu vois.
Ouais. Oui, moi perso, tu me dis ça, je suis ok. Moi, je suis petit, y a pas de problème.
Dans les interviews, il dira Bleek qu'il prend pas si bien que ça, tu vois, que ça l'a mis un peu genre je suis le gars, je suis ton gars.
Oui, mais quelque part, c'est la réalité.
Mais oui, quand c'est toi qui le subis, lui.
Quand Jay-Z il dit ça, lui, il pense pas trasher le mec en fait.
Il le dit bien. Ouais. C'est positif. C'est super positif. Mais Bleek le prendra comme je vais être toujours le petit gars quoi.
Ouais.
En gros, tu vois.
C'est vrai. Mais ok.
Mais voilà. Et donc il a l'occasion de sortir ce quatrième et dernier album en 2005.
Ouais.
Qui s'appelle donc le 534.
534 comme le bâtiment.
Exactement.
Chez la Marcy Project.
Exactement. Donc c'est là qu'on comprend aussi de l'affiliation. Tu imagines, c'est le même hood, la même cité et le même building. Tu vois, c'est vraiment.
Ouais.
Il y a vraiment un truc. Ça tombe. Les tantes, elles se connaissent et puis.
Ouais, ouais, bah oui, c'est sûr.
Ouais, ouais, tu fous le chicken. Chicken over rice. Tu vois. Et donc le quatrième album sort.
Donc ça, le quatrième album, donc c'est le premier. Sur le nouveau Rockefeller.
Ouais, exactement.
Chez Def Jam.
Exactement. Like your ass is screwed up, make you move like the Matrix and do with stuff in slums. Greet the black sheep, mommy, now pick it up. Hey, back to getting money. Alors, le Do You Know What Time It Is, c'est un gimmick.
Ouais. Le morceau, il est quand même assez incroyable. Et c'est aussi une prod Swiss Beat. Donc,
oui. Vous pouvez vous presque, tu vois.
Ouais, ouais, il revient dessus. Ouais. Et alors on se dit, avec un morceau comme ça, qui est quand même une attaque incroyable, tu te dis, le mec, il va tout péter.
Et puis le marketing derrière, du première sortie.
Ouais, première sortie, Def Jam, New Rockefeller, machin, ouais, etc. En plus, pour les gens vraiment de la pop qui nous écoutent, sur cet album, on a la première apparition de pas n'importe quel artiste, c'était...
Rihanna. Sa première apparition sur cet album-là,
ouais,
tout fraîchement signé.
Et débarqué donc, de la Barbade.
Alors là, pareil, hein, on a du Jay-Z, on a du M.O.P., c'est toujours les prods Bing, Chess Blaze, c'est un gros album. Ils ont encore mis tous les moyens pour que ça marche.
C'est vrai, c'est incroyable, le mec flop.
Et il va flopper encore une fois. Et là, je pense que c'est peut-être même son pire flop.
Ouais,
donc là, en fait, en gros, les gens, t'as l'impression qu'ils ça va devenir un gimmick, quoi. Tu vois, ouais. Memphis Bleak, non, ça marche pas, on a pas envie de l'acheter. Même, on met pas 10 dollars. Tu vois, c'est certainement ça, tu vois. Aux États-Unis, tu peux vite avoir une étiquette de, voilà, je vais pas acheter Memphis Bleak, ça. Tu vois, ça devient presque
mais c'est bizarre parce que, qu'est-ce que le mec, il a fait pour mériter ça? Tu sais, tu te dis.
Eh ben, je pense que les gens mon opinion, ils ont dû se dire, pourquoi lui? Tu vois, en gros, ils ont dû se dire pourquoi Jay-Z, pourquoi il mérite pas.
Non, mais le mec rappe bien.
Le mec rappe bien.
Il a du swag.
Ouais, exact.
Il porte les Teddy Pelé ouais, ou Avirex jaune fluo comme personne. Je veux dire, le mec, tu vois, il est là, ouais, il est en place.
Ouais, bien sûr. Mais voilà, mais c'est les gens, n'ont pas de. Je pense, un manque de charisme. Certains.
Ah, là, on est d'accord.
Bon, d'accord. Ouais. C'est-à-dire que des blics dans les interviews, c'est une catastrophe.
Mais moi j'ai envie de dire, le mec est rappeur.
Le mec est rappeur, bien sûr. Mais quand t'écoutes un Jay-Z, quand t'écoutes un Eminem, quand t'écoutes un 50, quand t'sais, le discours que t'écoutes après Memphis Bleak, ça fait de second couteau, ça fait troisième
ouais,
couteau.
Ça fait vraiment.
Ça fait. Ouais. On descend d'un cran, quoi.
Ouais, d'accord. Le mec est pas stellaire, quoi. Il brille pas.
Exactement.
Ouais.
Comme tu dis, c'est parce qu'on lui demandait, mais ça fait partie du package.
Ouais. Donc en fait, finalement, son plus gros problème, c'est lui-même, quoi. Le mec a pas réussi à.
Exactement.
Déjà, un, sortir de l'ombre de Jay-Z.
Alors qu'il avait toutes les cartes pour y arriver.
Ouais. Ouais, mais t'as plein de mecs comme ça qui sont les petits de, par exemple, je sais pas, un Joe Santana avec Cameron, le Deep Set, etc. C'est un peu pareil,
ouais,
tu vois.
Sûr, bien sûr, ouais, bien sûr. Mais Jewels, si on fait le bilan, on le fera dans une des prochaines émissions. Jewels, il a fait deux albums et après.
Ouais, ouais, il a disparu.
Il a disparu,
ouais,
tu vois. C'est pour d'autres raisons, des raisons plus médicales. mais c'est, tu vois, c'est vraiment. C'est dur de. Je pense que c'est dur de. Parce que faut pas oublier qu'à l'époque, ces MC-là, ils ont des égos aussi. Hein. Et quand t'es leur petit. Il faut que rester le petit, quoi, tu vois.
Ouais.
C'est là aussi.
Ouais, mais c'est marrant. Ouais. T'as d'un côté Jay-Z qui prend le mec et le remet, en fait, le remonte systématiquement sur toutes les structures qu'il fait. Il le met en tête de gondole.
Exact, ouais.
Il va pas non plus après lui pousser la tête pour le laisser.
C'est
sous
pour ça, je pense que leur relation, elle s'est construite et elle a duré sur le temps parce que c'était quand même sain. Je pense que Bleak, il sentait que Jay-Z voulait le pousser.
Ouais.
Et que Jay-Z disait, bon, ça marche pas, t'inquiète, t'es avec moi, la prochaine fois.
Ouais.
Et ils partent toujours tout le temps tourner ensemble, c'est toujours
ouais, c'est son backer
c'est-à-dire même quand il est venu là au Zénith ou à Bercy sur scène, c'était Bleak qui était derrière, personne savait qui c'était, tu vois. mais c'est toujours Bleak qui est là, qui back Jay-Z, tu vois, qui
ouais,
y a une vraie relation de confiance, tu vois. C'est marié en 2015, Bleak. Ouais, il y a Jay-Z qui est là, tu vois, ils sont toujours ensemble, tu vois. C'est vraiment ouais,
c'est ouais, c'est son gars sûr.
C'est son gars sûr, exactement. Mais malheureusement, voilà, sa carrière, on va dire sa carrière majeur, c'est-à-dire en maison de disque, va s'arrêter là.
Parce que là, donc le 534, là, ce quatrième album, du coup, en termes de
Il fera pas disque d'or, celui-ci.
Il fera pas disque
non,
d'or.
Il va pas faire disque d'or, celui-ci. Là. Oh. Donc là, ça fait ça.
Là, c'est l'affront suprême.
Oui, là, je pense que là, il a pas le choix. De toute façon, le board même à Def Jam, on lui dire, bon, alors, on arrête.
T'es gentil, mais on arrête.
Il va sortir des mixtapes, il va tourner avec toi. Ouais. Et, puis voilà, l'histoire va se continuer comme ça. C'est ce qu'il va faire, hein, Blick. Après, il va sortir des petites mixtapes, il va même avec des Européens sortir 2-3 trucs en téléchargement, mais bon, ça va rester anecdotique, tu vois, plus personne prend le temps d'écouter Memphis Bleek.
Alors au chapitre des trucs un peu rigolos quand même, Memphis Bleek, on l'entend aussi dans une pub pour Fructis. Oui. Le mec, on est là, quoi.
Ah oui, il est là, puis il a un podcast aussi.
Il a un podcast, d'ailleurs. Alors, vraiment, n'importe qui fait des podcasts. C'est insupportable.
Ça s'appelle Doucet Friday.
Doucet Friday.
Ouais, de temps en temps, les Friday, puis il s'exprime sur le sport. Là, il s'exprime
récemment. Ah oui, c'est vraiment... C'est pas que musical, le mec.
Il s'exprime parce qu'il y a, tu sais, bon, l'histoire de R. Kelly. Sur Damon Dash. Qui était avec Alia à l'époque, s'exprimait là-dessus parce que Damon Dash aurait dit qu'il connaissait pas l'histoire et tout. Mais bon, Blick a dit, mais si.
Si, tu connais.
Tu connais, forcément, tu vois. Oui. Donc voilà, donc il aime bien dire ce qu'il a envie de dire, mais bon,
Ouais, donc en fait, c'est un peu comme le log de la MUA, mais par Memphis Blick.
Voilà.
Tu vois, un truc qui parle de tout et de rien. Ah, c'est bien. Et du coup, là, depuis donc 2005.
Voilà, c'est à base de mixtape, des morceaux sur internet de temps en temps, avec une qualité vraiment très médiocre. Là, tu sens que c'est toi, il a tout raconté. Il a pas raconté qu'il sortira plus jamais d'album. Il peut plus dire grand chose, quoi. C'est vraiment.
Le mec, il reviendra pas. Là on s'attend pas à un comeback, genre pour fêter, je sais pas, les 20 ans. Non. Bah non, parce que c'est les 20 ans, du coup.
Voilà. Pour les 20 ans, il fait Doucet Friday.
Ouais, d'accord, ok.
Et donc voilà, c'est le Rise and Fall de Memphis Bleek, et ça correspond bien vraiment au son, tu sais, et à ce que peut être aussi le business aux États-Unis. C'est vraiment 10 ans, 95-2005.
Ouais.
Assez intense, tu vois, où le petit va être là, où il va essayer, il va squatter les radios, il va squatter les clubs, il va être avec les plus grands, il va rapper avec les plus grands, et il n'y arrivera pas, tu vois, il n'y arrivera pas. Alors, il est toujours bien, hein. J'ai vu là, dans Forbes, tu peux checker les personnalités, voir, ils estiment leur revenu, tu vois. Il est toujours dans 1,5 million, 2 millions.
En faisant quoi ?
Alors, il tourne. En fait, aux États-Unis, tu as un système de tournée des collèges. Le collège qui te donne 15, 20, 30
universités.
Et tu fais avec tous les tubes qu'il a, il y aura toujours des gens, tu vois. Il y aura toujours des gens, plus le cachet, quand il est tourné Rocafella, les tournées de Jay-Z, tout ça.
Une pub Fructis.
Exactement. Donc il est toujours, après c'est estimate Forbes, hein.
Ouais.
Il est toujours à son petit 1,5 million, donc il est pas pépère, tu vois.
Ouais, finalement, il vit, quoi.
As long as he's alive, he's a millionaire.
Tu vois. Je pense qu'on finira là-dessus.
Ouais.
Memphis Bleek, donc Rise and Fall, 10 ans intense.
Voilà, l'âge d'or de Rocafella. Le son Rocafella pour moi, voilà.
Ouais, c'est emblématique.
Emblématique, oui, Just Blaze, Kanye West, Memphis Bleek, c'est le son Rocafella, quoi.
Les moi, c'est vraiment le son new-yorkais à l'époque où du coup j'écoutais moins de rap de New York parce que.
Ouais, c'est les gros synthés, les multipistes.
Ouais, là c'est 70 effets par piste, attention.
Ouais.
Mais quand même, c'est important d'avoir ce genre de...
Exactement, c'est bien, en plus c'est même pour notre show, pour notre émission, ça installe bien la dynamique de ce qu'on veut donner, tu vois. C'est-à-dire qu'on va vous raconter des belles histoires sur des choses, sur les psy que vous avez entendues de l'époque, et voilà, on va rentrer dans le détail en survolant et en écoutant du gros son, quoi.
Alors, ce qu'on fera même, tu vois, je m'y engage, c'est sortir une playlist Spotify.
Ah ouais, bien ça.
Avec une sélection des morceaux pour vraiment...
Faites par Sam.
Ouais, exactement. DJ Sam la Selecta.
Sans Spotify, on mettra ça, tu vois.
Ouais, Sam la Selecta qui fera les playlists pour que justement les gens qui écoutaient ce podcast puissent après écouter l'artiste avec une sélection vraiment des morceaux choisis par Six et moi, mais principalement Six parce que ce rap...
Ça dépendra l'artiste, hein.
Ce rap bling bling, c'est le tien. Je te le laisse, je te le donne, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais voilà, pour donc conclure ce premier pilote de Six Eda, c'était vraiment un plaisir.
Bah écoute, partagez. Hein. Allez, ciao.
À plus les gars. You know my lady got...
that silky smooth. You know just how I do, I can run my fingers through. Gone, yeah, keep strong all day, it replenish your glow. It turn that dull into soft, so girl tell friends to get lost. I'm with my lady friends, meant for them, just take a look at them. But if you don't understand, we can play the hook again.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.